Emmanuel Rist, le tueur néo-nazi de Colmar. Narration, Florent Houllier. Dans les années 2000, militants d'extrême droite et partisans du Troisième Reich font encore parler d'eux. En Alsace, le 30 avril 2004, le cimetière juif d'Erlichheim est profané. 137 tombes ont été saccagées et taguées d'inscriptions antisémites. 6 mois plus tard, un autre cimetière alsacien subit le même sort. Un drapeau nazi a été érigé à la place du drapeau français. La seule tombe d'un ancien soldat de confession musulmane a également été saccagée. Le 8 septembre 2005, la violence monte d'un cran. Cette fois-ci, les néo-nazis ne s'attaquent plus aux morts, mais aux vivants. Labib Ben Amar, un ancien ouvrier de 65 ans d'origine nord-africaine, échappe de peu à la mort. Une déflagration causée par une bombe a détruit son abri de jardin à Roufak, alors qu'il ouvrait la porte. La même année, un homme tente d'écraser des enfants maghrébins dans un village. Tous ces faits s'orientent vers un même homme. Emmanuel Rist et ses deux complices sont arrêtés. Le cas Rist permet de résoudre une autre enquête vieille de 5 ans. Celle d'un meurtre particulièrement cruel dans la petite commune de Gundelsheim. Nous sommes le 22 mai 2001. Mohamed Mazzini, 46 ans, et son cousin sont installés en Alsace depuis quelques années. Ils sont vendeurs itinérants de tapis et ils passent de domicile en domicile en faisant du porte-à-porte. Leur famille est restée au Maroc. La vente de tapis artisanaux marocains rapporte peu. Mais pour Mohamed, c'est suffisant pour pouvoir aider financièrement sa famille en leur envoyant de l'argent. Il ne compte pas ses heures, ne compte pas non plus les kilomètres. Cela fait déjà 2 jours que les cousins prospectent dans la région de Münster. Ce matin-là, vers 9h20, les deux vendeurs font une halte à Roufak pour prendre un café à l'Ours Noir, un établissement qu'ils ont l'habitude de fréquenter. Mohamed connaît bien le patron. Les deux hommes s'apprécient. Ils se saluent pour la dernière fois, un peu avant 10h. Les deux cousins démarrent leur tournée, mais celle-ci va s'achever dans le sang. Il est 11h30 lorsque les deux vendeurs arrivent à Gundelsheim, un village proche de Colmar. Il n'y a qu'une centaine de maisons. Pour aller plus vite, les deux hommes se partagent la tournée. Mazzini prend la partie haute du village, tandis que son cousin attaque les ruelles de la partie basse. Sur la route principale, le vendeur de tapis a croisé à 2 reprises une voiture dont le chauffeur ne lui a pas paru très amical. En arrivant rue du Château, une rue qui se termine par une impasse, il a la sensation d'être suivi. Il continue malgré tout à sonner aux portes et suit plusieurs refus, mais le marchand ne s'offusque pas. Il a l'habitude, sonner aux portes quand approche l'heure du repas, cela n'aide pas forcément à vendre plus de marchandises. Il atteint la dernière porte de la rue du Château, puis fait demi-tour. Une détonation retentit. Mohamed Mazzini s'effondre au sol. Il vient d'être abattu d'une balle dans la nuque. Il est 12h30. Une voisine, alertée par le bruit, sort devant chez elle. Elle voit un homme allongé au sol, face contre terre. Des tapis sont éparpillés en vrac autour de lui. Certains ont roulé jusqu'en bas de la rue. Elle se précipite sur son téléphone pour prévenir les secours. Lorsque le SAMU arrive sur place, il n'y a déjà plus rien à faire. Une grande quantité de sang s'est écoulée le long de cette rue en pente. Les gendarmes constatent immédiatement un trou à l'arrière du crâne. Un autre homme, qui n'est pas secouriste, est également présent près du corps. Les gendarmes comprennent qu'il s'agit du cousin de la victime. Son attitude leur a paru curieuse, il était en train de ramasser les tapis. Pendant que le corps est transporté à l'hôpital et le cousin de la victime pris en charge par les urgentistes, les gendarmes mènent une enquête de voisinage. Le corps doit encore être autopsié et la balle, une fois retirée, expertisée par la balistique. Pour ce meurtre, il n'y a aucun témoin direct, personne n'a vu le tireur, seulement sa voiture. Une voisine dit avoir vu un véhicule de la marque Volkswagen, une Golf, faire des allers-retours près de sa fenêtre. Un autre voisin parle d'un homme musclé, le crâne rasé, portant un t-shirt blanc. Les gendarmes ne peuvent pas se fier à la description de la voiture sans plaque d'immatriculation. Il y a plus de 1200 propriétaires de ce modèle dans la région. Les convoquer tous prendrait un temps fou. Au fil des investigations, il semble que la victime n'avait pas d'ennemis. Il n'avait d'ailleurs aucune raison de s'en faire. Mohamed vivait dans un foyer pour travailleurs à Belfort. Le directeur parlait de lui comme d'un homme discret, toujours très respectueux des consignes. Plusieurs habitants des villages alentours disaient que c'était un vendeur très honnête, jamais insistant. Il se proposait même de rembourser ses clients lorsque ces derniers n'étaient pas satisfaits. Qui aurait bien pu en vouloir à un homme aussi sympathique ? L'hypothèse du crime raciste n'est pas exclue par les enquêteurs. Mohamed a été tué d'une balle qui a pénétré sa nuque de bas en haut. Le projectile n'est pas ressorti. L'impact a provoqué une hémorragie intracrânienne, un œdème, puis un arrêt respiratoire. La balistique qui a analysé la douille retrouvée sur place parle d'un vieux modèle de pistolet automatique 7,65. Un pistolet allemand de petite taille datant de la Deuxième Guerre mondiale. Très utilisé notamment par la police du Troisième Reich. Ce modèle est très répandu en Alsace, une région particulièrement marquée par l'invasion allemande et les exactions nazies, et qui a été allemande entre 1870 et 1914, puis entre 1940 et 1945. Elle est d'ailleurs la seule région de France à posséder les vestiges d'un camp de concentration, le Struthof, où 52 000 personnes ont été faites prisonniers entre 1941 et 1945. 60 ans plus tard, on retrouve des passionnés morbides de cette période. Le pistolet utilisé pour le meurtre de Mohamed est encore en circulation sur le marché noir. Il se vend entre 200 et 300 euros entre collectionneurs. Il serait près de 250 000 en France à en posséder un exemplaire. L'hypothèse d'un meurtre néo-nazi est confirmée par un tract au contenu glaçant, retrouvé placardé sur les portes de la mairie d'Offenbach, dans le Haut-Rhin, 5 jours avant le meurtre. Dans un texte signé par un étrange sigle, NSA 2882, les Alsaciens étaient invités à se battre pour Hitler contre l'invasion de la prétendue race inférieure. La liste des suspects est longue. Trois ans plus tard, le 30 avril 2004, le jour de l'anniversaire de la mort d'Adolf Hitler, le cimetière juif d'Erlichheim subit d'importantes dégradations. 137 stèles sont détruites ou marquées par des tags à la peinture rouge. Sur l'une d'entre elles, on trouve l'inscription allemande « Judenraus », « Juif dehors », avec une croix gammée dessinée à côté. Un symbole nazi que l'on retrouve sur plusieurs tombes, mais aussi une énigmatique inscription « TIWAZ 2882 ». Un chiffre que les enquêteurs reconnaissent, puisqu'il se trouvait également sur le tract revendiquant l'assassinat du vendeur de tapis ambulant. Un expert en écriture est mobilisé sur place. Il identifie 3 auteurs différents pour ces tracts et ces inscriptions dans le cimetière. 5 mois plus tard, un autre cimetière alsacien est profané. Cette fois-ci, il s'agit d'un cimetière militaire de la Seconde Guerre mondiale. Toutes les tombes sont chrétiennes et ont été épargnées, à l'exception d'une seule, celle d'un soldat musulman. La peinture utilisée pour le tag est la même, le rouge. Elle porte encore une fois l'inscription 2882. À quoi pourrait se référer ce mystérieux chiffre ? Est-ce l'identification d'une cellule secrète néo-nazie ? Les militants d'extrême droite qui ont déjà été identifiés dans des actes de vandalisme sont interrogés. Dans les années 2000, les profanations de sépultures juives dans la région sont fréquentes. En juin 2004, le cimetière d'Agno est visé. Les enquêteurs pensent retrouver la trace de ceux qui ont détruit les tombes d'Erlichheim, mais il s'agit en réalité d'un autre groupuscule néo-nazi. À Agno, les sépultures de soldats musulmans comportaient les inscriptions HVE Junior pour Heimatreue Vereinigung Elsass, ce qui signifie en français « Association Alsace fidèle à la patrie », une section néo-nazie qui s'était fait connaître au début sous le nom de Cercle Charlemagne. En 1992, ils étaient reconnus responsables de la profanation de 2 autres cimetières juifs à Kronenburg et Schiltigheim, mais ils n'ont aucun rapport avec le chiffre 2882. Plusieurs dizaines d'autres militants nationalistes sont convoqués dans les bureaux du commissariat de Colmar. Ils sont soumis à des tests d'écriture en vue de les comparer avec les graffitis sur les tombes. Les gendarmes utilisent des mots et des chiffres retrouvés sur les tombes pour leur dicter. Le Führer est mort le 30 avril 1945. Une écriture retient particulièrement l'attention. Celle d'un jeune garçon d'une 20aine d'années, dont le chiffre 4 de 1945 est écrit de la même manière que sur le tag.